Bah, mexicanisation, moi, j'irai pas jusqu'à là. J'ai fait tout Marseille en long, en large et en travers, il m'est jamais rien arrivé. Donc c'est pas réellement le Mexique. Au Mexique, si on va dans des coins un peu retranchés, ouais, il peut nous arriver des trucs de fou.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur de vous retrouver chaque après-midi dans Zoom Zoom Zen pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, l'expression sur laquelle on va zoomer fait froid dans le dos. La mexicanisation, qui n'est pas le fait, comme Manon, de ne plus pouvoir passer un repas sans boire de mezcal et nous raconter ses prouesses en surf sur la plage de Puerto Escondido.
Magnifique.
Et surtout, comment elle a fait chavirer le cœur de tous les Mexicains qui, je la cite, n'avaient simplement jamais vu une femme aussi belle, parce que franchement là-bas c'est que des tons. Fin de la citation.
J'ai jamais
non,
dit ça.
La mexicanisation d'une société, c'est un terme cher au beau-frère de Cyril Lacarrière, Bruno Retailleau. Bruno qui a déclaré dernièrement sur ce ton toujours mesuré et nuancé qu'on lui connaît, je cite, le pays est confronté à l'hydre islamiste qui corrompt les esprits et à la pieuvre du narcotrafic qui étend son emprise sur tous les territoires de la République. Quand le narcotrafic pèse si lourd qu'il devient incontrôlable et que les narcotrafiquants commencent à détenir un pouvoir tel qu'ils réussissent à s'affranchir des lois durablement, voilà une esquisse de ce qu'est la mexicanisation, référence évidemment avec ce qui se passe depuis de nombreuses décennies maintenant au Mexique, dont le problème principal, le mal profond, n'est pas, comme l'affirment encore Manon et Pierre, le mollet, cette sauce ignoble, vaguement cacaotée, que même les restaurants étoilés ne peuvent pas s'empêcher de te foutre dans un coin de l'assiette, mais la drogue. Je sais, Manon, que vous avez du mal à concevoir que la drogue puisse être un problème. Eh bien, si, elle le devient du moment où les narcotrafiquants sont si riches, si puissants, qu'ils deviennent intouchables, ce qui aboutit à un pays qui n'a plus que l'apparence d'un état de droit, puisque la police et la justice sont démunies face aux cartels. Alors, la France est-elle en voie de mexicanisation, comme le pensent Bruno Retailleau et son beau-frère, ou bien le terme est-il exagéré ? Que représente vraiment le narcotrafic en France aujourd'hui ? A-t-il vraiment étendu ses tentacules partout ? Manon est-elle une mule du cartel de Tijuana ? On l'a su aux toilettes depuis son retour de Mexico et pour l'instant, pas de petit colis. Zoom zoom zen, c'est parti. Enfin, rien d'illégal en tout cas.
C'est ça.
Voilà. Sinon, il y a occlusion. Hein.
Non, ça va pas.
Bonjour et désolé, Clotilde de Champérache. Merci d'être avec nous sur Inter.
Bonjour.
Alors, Clotilde, vous êtes sérieuse. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des organisations criminelles et des mafias. Vous avez d'ailleurs publié Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale aux éditions du Cavalier Bleu. Vous allez tout nous expliquer de ce qu'on appelle donc la mexicanisation. Juste le temps de vous présenter ceux qui ne connaissent la drogue que par oui-dire. Surtout Manon Mariani qui nous a maintenu pendant 3 ans n'avoir jamais goûté à aucune drogue jusqu'à ce qu'elle revienne un jour d'un week-end à Amsterdam avec des pupilles dilatées comme Jeff Bridges dans le Big Lebowski. On avait été obligé de faire brûler de l'encens dans le studio tellement elle sentait le chichon. Bonjour Manon.
Bonjour à tous. J'avais précisé drogue dure mais bon, personne ne m'écoute.
Très bien. Non, c'est vrai que c'est interdit
tout
aussi.
Ça,
hein.
Tout ça.
Alors, c'était dans un autre pays où c'est légal.
Bien sûr, Manon, voilà. N'aggravez pas votre cas. Le Mexique, ça vous connaît, vous en revenez, on l'a dit.
Oui.
Quelle sera votre pièce jointe aujourd'hui ?
Un journal mexicain indépendant qui ose prendre position contre les cartels et donner la parole à leurs victimes, sauf qu'évidemment, ça ne fait pas l'unanimité là-bas.
Face à vous, Clotilde, il est la preuve accablante que le narcotrafic a étendu son emprise jusqu'aux territoires les plus reculés de la République, jusqu'à Alençon. Car enfin, comment expliquer qu'un journaliste du service public en contrat précaire de saison puisse, pour ses vacances, séjourner au prestigieux Château Lacoste, perle du Luberon, pas une chambre en dessous de 1005 la nuit, château dans lequel il parade tout en Jacquemus. La seule explication à ça, c'est le trafic de drogue, bien sûr. D'où le fait qu'il paye tout en cash et qu'il soit le dernier humain à poser bruyamment sur son bureau son porte-monnaie, comme mon grand-père en 78. Quentin, lui, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, votre activité officielle, il y en a quand même une, c'est le micro-trottoir.
Oui.
Est-ce que les gens dans la rue, ils la sentent, cette mexicanisation en cours ?
Comme j'étais au Château Lacoste, pour à la fois l'art et le rosé, j'en ai profité pour faire un détour par Marseille. S'il y a bien une ville où on parle de drogue, c'est Marseille. Mais alors, qu'en pensent les Marseillais ? Alors oui, certes, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on y raconte ? Les réactions dans les rues de Marseille dans la prochaine demi-heure.
C'est la première fois qu'on entend Jules sur l'antenne de France Inter.
Bah non, on a fait une émission spéciale.
C'est vrai, je l'avais oublié.
Mais vous n'étiez pas là.
Ah, vous étiez pas
comment
là.
Ça, j'étais pas là.
L'avait brillamment remplacé.
Ah, mais ça m'étonne parce que j'ai écouté toutes les émissions,
ouais,
je n'étais pas là.
Avec Fred Musa, oui. M'embrasse.
Vers 16h30, même ceux qui ont déjà vu Quentin ouvrir son larfeuille au Monop pour payer un paquet de bonbec avec un billet de 500 € seront choqués, car on va partir à la découverte des frasques du goat du narcotrafic, le dieu vivant, désormais mort, du schtouf business, Pablo Escobar. Lui aussi, Aussi, comme Quentin, il avait beaucoup d'argent liquide et c'était pas simple à gérer, comme vous le verrez dans le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, il nous revient d'un été visiblement assez olé olé. L'inénarrable GC retrouvera le micro. Après 17h, moins d'argent pour défendre les femmes. C'est ce qui est en train de se passer pour les associations. Anne-Cécile Maillefer sera notre invitée. Elle viendra tirer la sonnette d'alarme. Mais d'abord, Clotilde Champérage, quand on entend ce mot mexicanisation, on pense assez logiquement au Mexique. Comment un pays, en l'occurrence donc le Mexique, est arrivé à devenir à lui seul un tel symbole?
Bah, c'est amusant parce qu'on en parle en lien avec la cocaïne, alors qu'au départ, encore actuellement, le Mexique ne produit pas du tout de coca. C'est un pays qui était plutôt producteur d'opium, et donc culture de pavot, qui pendant des années a vécu de ce commerce-là, y compris avec une demande américaine, notamment pendant la guerre du Vietnam, pour les troupes, et qui ensuite a été utilisé par les cartels colombiens, pour faire transiter la marchandise jusqu'aux États-Unis.
C'est un pays de transit.
Pour la cocaïne, pour la cocaïne. Mais par contre, ils sont encore puissants sur l'héroïne et sur les produits de synthèse. Ils travaillent avec les laboratoires pharmaceutiques chinois qui exportent des précurseurs chimiques qui servent aussi à produire des nouveaux produits de synthèse en toute illégalité.
La mondialisation de la schnouf. On fera une émission là-dessus aussi. La France est-elle en voie de mexicanisation? Pour lui, le débat est tranché. C'est Retailleau qui a raison. On est cerné par les otakos. Si on y prend garde demain, la France éternelle, la France du général de Gaulle, sera aux mains des chicanos. Beuglait-il en conférence de rédaction, les poings serrés, tremblants dans son slip français. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes.
Vous avez l'image.
Ah, c'est surtout qu'il emporte.
Oui, c'est ça qui est terrible.
Cyril, comment vous le savez surtout?
Des kangourous.
Cyril, racontez-nous, car vous vous êtes penché sur la question évidemment, la mexicanisation, d'où ça sort?
Imaginez une ville où la police porte toujours l'uniforme, elle arrête toujours des gens, les juges continuent de rendre des verdicts et les élections se tiennent régulièrement. Mais dans la rue, dans la vraie vie, quoi, tout le monde le sait, les vrais patrons, ce sont les cartels. C'est à cause de ce paradoxe qu'apparaît la notion de mexicanisation, un mot qui apparaît dans les années 90, quand le Mexique devient le symbole d'un État faible, corrompu et aux mains de la mafia. Et puis, le concept s'exporte, c'est l'Italie qui se mexicanise, des pays d'Amérique latine aussi, le pape François lui-même a employé le terme pour parler de son propre pays, l'Argentine.
Et donc en France aussi, on en a parlé.
Oui, plusieurs fois, depuis ces dernières années, et pas seulement dans les discours de la classe politique de droite. Didier Migaud, éphémère ministre de la Justice, et plutôt étiqueté à gauche, en a parlé l'an dernier. Bruno Retailleau aussi, ça c'était plus évident. Pourquoi ce terme est fort? Eh bien parce qu'il raconte un effondrement silencieux du système. Tout semble comme avant, mais en fait, tout a changé. Chaque génération s'habitue à voir la loi perdre un peu de terrain. On continue de voter, à faire comme si les institutions en avaient encore la main, mais tout le monde s'ajuste à une autre réalité. La mexicanisation, c'est quand l'État est encore debout, en apparence, mais que ce sont ceux qui sont dans l'ombre qui gouvernent. Alors d'où ça sort la mexicanisation? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Ouais, ce n'est surtout que le début de toute une saison où vous allez répéter chaque jour que c'est le début d'une histoire. Merci Cyril. Question simple, Clotilde Champérage, est-ce que la France est vraiment en train de se mexicaniser comme le disent Bruno Retailleau ou Didier Migaud par exemple?
Ce qui est intéressant par rapport à votre commentaire, c'est que pour moi, ce terme a été employé en relation avec la violence qui se déployait sur les territoires français. Et justement, là-dessus, on ne peut absolument pas parler de mexicanisation, malgré quand même une année compliquée. Au Mexique, on estime qu'il y a 30 000 morts qui sont liés au narcotrafic par an. Donc on est complètement sur une autre dimension avec une violence indiscriminée.
En France, c'est combien à peu près?
Là, on a, dans les règlements de compte, on était autour de 300 personnes.
On est loin
donc,
encore du
On en est très loin, heureusement. Et les cartels mexicains, alors qu'ils ne sont pas des mafias, mais bon, là, on va peut-être rentrer dans le détail des termes plus tard.
Ah oui, on va y rentrer tout de suite, si vous voulez bien.
Ouais.
C'est quoi la différence?
Alors,
pardon, moi, je connais rien.
Les cartels mexicains
tuent
de façon totalement indiscriminée. C'est-à-dire qu'ils tuent, y compris la population civile. Donc, ce n'est pas des victimes collatérales parce qu'il y a une balle qui a ricoché, comme on a pu avoir en France. C'est vraiment, on se sert de la population, on fait régner la terreur quand on en a besoin pour contrôler des territoire, on tue des juges, des journalistes, etc. Donc on est sur un usage de la violence totalement débridé, indiscriminé, pour faire pression, etc.
Et la mafia, du coup?
La mafia, pour moi, ça fait vraiment référence à ce qu'on a en Italie. Donc l'Italie, c'est pas mexicanisé. L'Italie, elle est mafiaisée.
Elle peut pas se mexicaniser culturellement, parce que c'est pas la
Alors il y a des
culture.
Phénomènes de violence. La violence qu'on observe avec le narcotrafic, c'est pas qu'en France, hein, c'est toute l'Europe qui est frappée. Mais les mafias ont un comportement nettement plus subtil de contrôle du territoire par un consensus social. Donc, elles vont donner des aides sociales,
Oui, c'est un peu donnant-donnant, quelque
voilà.
part.
Voilà. Et si elles peuvent éviter la violence, elles vont le faire, parce que la violence, c'est la répression. C'est l'État qui réagit, la population qui s'insurge, et ça perturbe, en fait, les trafics.
Alors, la France n'est peut-être pas en train de se mexicaniser, on va en reparler, mais ce qui est intéressant dans ce terme, c'est qu'on voit qu'un pays, un État de droit, peut dériver et se laisser dépasser complètement par des organisations criminelles. C'est le cas du Mexique. Comment l'État mexicain s'est laissé déborder par ces cartels dans les années 90 ?
Alors, au départ, on a un État qui est quand même fragile. Hein. L'Amérique du Sud, c'est pas les pays riches développés, donc il y a une fragilité étatique, des populations aussi paupérisées qui peuvent voir dans la connivence ou en tout cas dans le travail avec les narcotrafiquants une façon de vivre. Mm-hmm. La coca, alors là pour le Mexique, mais pour la Colombie, la coca, c'est pour le paysan, c'est plus rentable que de cultiver du maïs. Donc il y a ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Après, il y a eu des stratégies qui n'ont pas forcément été très fines au niveau de géopolitique. Quand je parlais tout à l'heure des États-Unis qui ont demandé à être fournis en opium, ça favorise aussi certains comportements. Et puis, la corruption a gangréné parce qu'il y a des sommes folles. Et encore une fois, quand on a des poches de richesse à côté de personnes pauvres, la tentation est très grande.
Oui, mais ça, du coup, ça existe en France, dans les cités, les petits jeunes qui...
Ça existe en France. La corruption, on commence à en parler. D'ailleurs, Bruno Retailleau a dit qu'il commence à y avoir de la corruption. On ne peut pas avoir un marché illégal, que ça soit les stupes ou autre chose, sans corruption. Donc la corruption, elle est là. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se maintienne à un niveau gérable.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Vesoul va-t-il devenir le nouveau Guadalajara ? Zoom cet après-midi sur la mexicanisation de la société française. Les narcotrafiquants sont-ils hors de portée de la justice française ? L'économiste et spécialiste des mafias Clotilde Champerrache est toujours avec nous. La mexicanisation, en fait, c'est une forme d'État dans l'État ?
C'est un niveau de corruption tel que, effectivement, le pays vit sous perfusion d'argent sale et les politiciens sont à la main, effectivement, des cartels.
Et les cartels, à la différence des mafias, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure en première partie, ne créent pas de structure sociale pour essayer d'aider, de donner en retour quelque chose à la population pour recueillir leur soutien, leur adhésion ?
Elles vont le faire, mais c'est de façon alternée avec de la violence. Donc c'est moins subtil et moins souterrain que ce que les mafias italiennes sont capables de faire.
Pour essayer d'imager, c'est quoi la vie quotidienne d'un habitant d'un pays où il y a des cartels, la mafia ?
Ça dépend justement, il y a des configurations extrêmement différentes. Au Mexique, il y a une pression. Pendant le Covid, on l'a peut-être pas su, alors là, c'est encore une fois, c'est peut-être plus la Colombie qui a été touchée, mais pendant le Covid, il y a des populations qui se sont retrouvées encore plus en difficulté qu'en temps normal et qui ont quitté leurs terres. Ces terres-là, elles ont été récupérées par les narcotrafiquants pour augmenter la production de matières bases pour
des drogues. Des terres qu'ils n'ont pas récupérées par la suite ?
Non, donc là on voit qu'il y a une stratégie d'expulsion, on prend la place, celui qui n'est pas d'accord, on le tue. Donc on est dans de la violence, dans de la contrainte, avec une population qui parfois se dit « moi je vais vivre tranquille en faisant ce qu'on me dit de faire ». Pour les mafias, on a une partie de la population qui va adhérer. Il y a des villes italiennes où le racket est systématique et il n'est pas dénoncé. Et il n'y a même pas besoin d'être accompagné de violence parce que c'est un fait établi, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est par exemple un commerçant qui sait qu'il doit reverser une partie de ses recettes à une organisation mafieuse.
Et qui ne le dénoncera pas, parce que là aussi, il fait son calcul, il se dit « j'ai pas intérêt, je vais m'attirer des ennuis, donc je laisse faire ». Et j'exige en échange aussi une protection de la part de ces criminels.
Mais là, le gouvernement mexicain, à l'heure actuelle, est à la main des cartels ?
Alors, c'est toujours très compliqué de le faire, de le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des moyens de pression. Alors, contrairement à l'image de la pieuvre, il n'y a pas une organisation criminelle qui gère tout. Il y a plein de cartels. Et des cartels en guerre entre eux. Donc, ça aussi, ça produit énormément de violence. Et l'idée, c'est que chaque cartel a son protecteur ou ses protecteurs. Donc, on peut avoir des politiciens qui vont mener un combat contre certains cartels, mais ce qui favorise l'émergence d'un autre cartel ou la montée en puissance d'un autre cartel. Donc c'est très complexe ces relations.
Alors on comprend que appliqué à la France, le mot de mexicanisation est peut-être un peu excessif. Néanmoins, dès 2002, un livre était paru, il avait fait grand bruit à l'époque, ça s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Est-ce qu'il y a, dans notre pays, sans dire qu'il est mexicanisé, est-ce qu'il y a des zones, effectivement, où un processus inquiétant est en marche, où ça aussi c'est caricatural ?
Alors, non, c'est pas caricatural. Il y a eu un autre excellent article dans la revue politique et parlementaire en 2017. C'était un général de gendarmerie, Charles-Antoine Thomas, qui parlait de dissidence criminelle dans certains quartiers. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, ça fait pas l'objet de dénonciation. C'est pas visible comme les règlements de compte. Et il disait que, sur certains territoires, effectivement, celui qui détenait la légitimité, qui donnait des petits boulots, qui aidait, c'était le narcotrafiquant. Et que donc, ces territoires-là, on perdait la main dessus et que face...
Mais où ça, par exemple ?
Là, lui, il opérait dans les quartiers du 9-3. Donc voilà, mais c'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être aussi dans une ville correcte, une cité qui échappe à un contrôle ou en tout cas qui ne perçoit plus l'État comme suffisamment protecteur.
Le journaliste Quentin. Philippe Poujol, spécialiste aussi de la question, dit que le trafic de drogue prospère sur les lésions de notre société. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, alors ça dépend aussi de ce qu'on entend sur les lésions de la société. C'est là que le discours de culpabilisation des consommateurs, moi, me pose problème. C'est-à-dire que quand on a autant de consommateurs de produits stupéfiants sur un territoire, il faut se poser la question du pourquoi. Qui consomme ? Pourquoi faire ? Et on n'est pas dans l'usage systématiquement récréatif. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas non plus tout. Quand on a des enquêtes qui montrent que les marins-pêcheurs en Bretagne consomment massivement, et qu'avant, ils consommaient de l'héroïne. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça dit aussi des choses sur la façon dont certains métiers sont extrêmement durs et le culte de la performance fait qu'aussi, on va consommer des substances qu'il ne faut pas consommer.
Lui non plus, il n'est pas blanc-blanc. Et même si les juges n'ont pas encore trouvé la preuve décisive, le smoking gun qui leur permettra d'établir qu'un intermittent du spectacle en CDDU ne peut pas séjourner au château Lacoste sans bénéficier de revenus annexes forcément illégaux, on sait tous que Quentin a des petits business parallèles. En attendant, ce qui vous attend forcément un jour au tournant, Quentin, à savoir la prison, vous êtes allé interroger comme si de rien n'était les passants sur la mexicanisation et évidemment vous êtes allé à Marseille.
Je suis sur le vieux port, les étals du poisson du jour attirent les mouettes qui tournent autour de nous et c'est ici que je rencontre ce monsieur. En train de regarder son smartphone dans sa housse à clapet.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Nasser. Nasser, je m'appelle.
Vous avez quel âge, Nasser ?
J'ai 70 ans.
Je lui parle de notre sujet du jour.
Mexicanisation.
Donc on dit parfois de Marseille qu'il y a une forme de mexicanisation.
Après, il a changé, bien sûr que ça a changé, mais on ne peut pas dire que c'est pire qu'avant. Les quartiers nord, on dit il y a la mafia, il y a des aides, il y a ceci, c'est des petits cons, c'est des petits voyous.
Qu'est-ce que vous avez entendu sur aujourd'hui, sur les jeunes des quartiers nord, etc. Est-ce que vous pouvez me parler de ça ?
Bien sûr, les jeunes aujourd'hui ils sont abandonnés. Personne ne s'occupe d'eux.
Personne ne s'occupe d'eux, nous parlons des jeunes, même parfois des jeunes mineurs qui commencent en tant que guetteurs dans une mécanique très bien ficelée.
Ils sont tous perdus, tous en général. Moi, j'habite pas les quartiers nord, mais ça m'arrive d'y aller et tout, j'ai mal au cœur, c'est la folie. On rentre dans la cité, il y a 4-5 personnes qui vous entourent, monsieur, qu'est-ce que vous faites là et tout. Moi, je comprends, très bien. Croyez-moi, des fois, ça m'arrive de discuter avec des jeunes, même des jeunes de 20 ans. Des fois, ils me disent, tonton, on n'a jamais entendu des paroles comme ça, on n'a jamais entendu ça, et pourtant, je leur parle normalement que n'importe quel paysan dit à ses enfants. Ce n'est jamais la faute des jeunes. C'est impossible. On n'a pas le droit de dire que c'est la faute des jeunes.
Je monte dans un VTC et je découvre par la fenêtre de la rue de la République qui mène vers la Joliette dans le 2e arrondissement de Marseille et je discute avec mon chauffeur.
Ah oui, la drogue ici à Marseille, elle a dépassé la limite.
Comment ça ? Je peux avoir votre avis là-dessus ?
Parce que moi, personnellement, j'étais agressé par les gens qui font la drogue.
Comment ça ?
Des passagers de Bolt. Alors, ils m'ont agressé, ils m'ont ramené les rosés pour acheter la drogue et le vent. Parce qu'il achète une grande quantité, j'ai refusé, il me frappe, je voulais défendre, le deuxième, il me jette l'acide sur les yeux. Ah oui, c'est ça. Malheureusement, et le procureur, il ne voulait pas faire l'enquête. Et jusqu'à maintenant.
Pour lui, on laisse faire, il sous-entend même pire.
Et pourquoi on voit commissariat par là, réseau de drogue par là, il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien qui... le commissariat que j'ai déposé plainte là-bas. Elle est là et derrière juste le réseau de drogue. Ouais, et le problème, le pire, le gouvernement ne fait rien. Ici, les responsables de Marseille ne font rien. C'est ça. Si on dépose plainte, ils le classent direct.
La mexicanisation est aussi doutée de la transparence et de l'honnêteté des institutions. Je descends et je marche quelques mètres quand je rencontre cette jeune femme qui me demande si on fait ce sujet parce qu'il y a de plus en plus de restaurants mexicains à Marseille. Pas exactement.
Ah d'accord, ok, se mexicanise dans le sens, ça devient Pablo Escobar, ça devient un gros trafic de...
Bah, je pense que la France entière a des problèmes avec les stupéfiants, mais après, en fait, le problème aussi, c'est les gens qui en consomment aussi. Et puis souvent aussi, pour connaître pas mal de jeunes et d'amis qui viennent des quartiers nord et qui ont, pendant leur parcours, dealé de la drogue, souvent ils vont nous répondre que c'était en réponse à une précarité indécente.
Anthony, lui, il a 37 ans, il bosse dans la restauration, un gaillard, avec des tatouages sur chaque biceps. Je lui demande le regard qu'il porte sur notre sujet du jour.
Ben, mexicanisation, moi, j'irai pas jusqu'à là. Marseille, ça a toujours été, la mafia a toujours été implantée depuis des années. Moi, je trouve ce mot un peu fort, parce que c'est pas parce que la DZ Mafia est en place depuis... on va dire quelques mois, je vais parler en mois et pas en années, parce que ça va être un court instant. Moi, je pense pas que ça devient le Mexique non plus, Marseille, faut pas en abuser.
Il me parle des raccourcis, de la responsabilité aussi des médias dans l'image qui est véhiculée de Marseille.
J'ai fait tout Marseille, en long, en large et en travers, il m'est jamais rien arrivé. Donc c'est pas réellement le Mexique. Au Mexique, si on va dans des coins un peu retranchés, ouais, il peut nous arriver des trucs de fou.
Même si on va dans les quartiers nord, hein. Si je vais avec le micro là, je pense que...
Ah non, pas du tout, vous allez avec le micro là-bas dans les quartiers nord, vous allez être même choqué comment vous allez être reçu.
Ouais, c'est peut-être ça Marseille, un mélange de clichés qu'on recycle, de vérités qu'on refoule, de réalités qu'on évite aussi soigneusement. Anthony m'a proposé d'aller enregistrer dans les quartiers nord, spoiler, je n'y suis pas allé, j'étais alors... déjà trop long de toute
oh,
façon.
Oh bah c'est pour ça évidemment, j'ai dégonflé comme d'habitude.
C'est vrai.
C'est pas cette année que vous l'aurez encore, le prix Albert Londres.
Non, mais je cherche pas non plus.
C'est vrai.
En étant
un petit Pulitzer.
Clotilde Champerrache, est-ce que Marseille, c'est effectivement l'exemple sur lequel il faut se pencher quand on parle, quand on cherche la mexicanisation dans la société française, ou est-ce qu'on en fait trop avec cette ville, notamment avec les quartiers nord?
On en fait beaucoup avec cette ville, alors que justement, la commission sénatoriale sur le narcotrafic a bien montré que c'est tout le territoire qui est concerné. Ça donne l'impression qu'on est resté sur le milieu corso-marseillais, oui. Et que c'est notre ville criminelle avec presque un label, d'ailleurs, qui est vécu comme tel hein, dans le monde criminel. Mais
il y a quand même là-bas des jeunes qui se font tuer en pleine rue.
Oui, mais il n'y a pas qu'à Marseille.
Non, bien sûr.
Mais on parle de Marseille à chaque fois et on braque les projecteurs, on fait les opérations PlaceNet XXL à Marseille, ce qui enferme aussi la ville dans cette logique-là. Ce qu'il y a à Marseille, c'est qu'il y a un grand port. Et les villes portuaires, notamment pour la cocaïne qu'on est obligé d'importer, elle arrive massivement par les ports. Mais le port du Havre est complètement aussi une porte d'entrée. Enfin, on a plein de territoires qui sont problématiques à ce niveau-là. Ce qui a mis l'accent sur Marseille aussi, c'est cette DZ Mafia. Alors ça, c'est très intéressant sur les termes. Il s'appelle mafia, alors que ça n'a rien d'une mafia.
Ah, pourquoi ?
Parce que une mafia, c'est quelque chose qui se perpétue dans le temps, qui a un code d'honneur, des structures d'affiliation très très fortes, et qui se place à cheval sur le légal et l'illégal. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement dans la société qui est fort. La DZ Mafia, elle se positionne hors société.
Bah, la DZ Mafia, de toute façon, c'est plus un cartel. Oui. Enfin, on ressemble plus à.
Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Elle s'appelle mafia. Elle s'auto-appelle mafia et en même temps, elle emprunte les codes des narcos. Donc, c'est un micmac de références plutôt cinématographiques que de leur réalité criminelle.
Mais Anthony, il disait une chose aussi intéressante dans le micro-trottoir de Quentin. Il disait que le mot mexicanisation, pour lui, était un peu fort. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas caricatural non plus de parler de mexicanisation? Vous nous parlez quand même aussi de la Colombie depuis le début de l'émission.
Oui, parce qu'il y a plein de territoires qui sont fortement liés à ces trafics de stupéfiants. Il y a l'Équateur aussi qui a totalement basculé, justement parce que la lutte contre le trafic de stupéfiants, en ciblant les pays producteurs pour la cocaïne, a fait que les trafics, les flux commerciaux ont dû se dérouter. Donc il y a des phénomènes de routage, c'est la Guyane aussi qui tombe pour notre territoire. Donc il y a des territoires qui ne sont pas producteurs, mais qui sont sur les routes, qui deviennent des bases logistiques et qui basculent dans une violence et dans corruption, des phénomènes de corruption très importants.
Une chose peut-être intéressante, c'est Nasser qui a plus de 70 ans sur le Vieux-Port qui lui est vraiment triste de constater que c'est les jeunes qui en pâtissent. Et est-ce qu'on a laissé cette affaire-là aux jeunes qui foncent dedans, quoi?
Alors en réalité aussi, ce qu'il faut voir dans le narcotrafic, c'est que, encore une fois, c'est pas une pieuvre avec un acteur qui gère tout. En fait, il y a une coopération criminelle qui est terrifiante avec de gros acteurs. Alors les cartels colombiens, mexicains, la mafia italienne, notamment la mafia calabraise, qui joue d'intermédiaire de gros, les Albanais qui sont montés en puissance. Et puis, il y a ceux qui distribuent aux consommateurs finaux. Et c'est un peu le bas du panier. C'est ceux qui vont effectivement être visibles sur les territoires. Et eux, ils ont intérêt à utiliser des jeunes parce qu'ils sont manipulables, parce qu'aussi, on leur on les biberonne à l'idée qu'ils sont irresponsables pénalement, ce qui n'est pas tout à fait
exact. Et ils sont précaires aussi.
Ils sont précaires, en rupture vis-à-vis de l'école, etc.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la mexicanisation de la société française, je vous propose à présent de jouer avec le symbole même de cette mexicanisation poussée à l'extrême, ce qui est amusant car il était colombien. Jouons avec les meilleures anecdotes sur Pablo Escobar. Vamos a jugar al zoom zoom testo. Oui, tout à fait.
Vamos.
Les pages sont là, elles étaient un peu loin de mon bras.
Oui.
Avec d'abord cette précision, cette précision importante. Nous croyons tout savoir de Quentin Luy. Sa taille, 1m62.
Son passé. C'est faux, c'est faux.
Son passé.
Non, la vérité.
64, son passé.
71, on m'a mesuré dans le bureau.
Ça a baissé, vous avez dit 72 hier.
J'ai eu un accident entre deux.
Son passé de fer de lance de l'hémoroc normand, le bide de sa tasse Loup-Cigalou, jusqu'à son surnom énigmatique, la bûche. Seulement voilà, son entêtement à vouloir toujours tout payer en espèces, soi-disant pour échapper aux GAFA, que nous avions pris pour une forme de pudeur fiscale, cachait en réalité une bien plus sombre réalité. Justement, ça fait deux fois que je dis réalité, mais c'est pas grave. Derrière ce visage juvénile, ou même un modeste bouc avait refusé de pousser, se cache El Chapito, l'héritier du clan, lui, dirigé jusque-là d'une main de fer par Spencer, lui, l'oncle de Quentin qui s'est retiré des affaires et coule des jours heureux sur son yacht au large de la Sardaigne. C'est son insistance étrange pour inciter Manon à ramener des valises de café du Mexique qui a mis cette dernière sur la voie. Faisant fi des consignes de Quentin, elle a découvert à temps qu'à la place de l'arabica biosourcée qu'il avait promis, elle allait transporter de la cocaïne de Sinaloa qui serait ensuite revendue à prix d'or en France, une partie au grossiste des quartiers nord de Marseille, l'autre à Marie-Monique Robin. Qu'on embrasse, évidemment. Désolé, Marino, il va falloir trouver un autre fournisseur. Bref, Quentin, passons l'éponge sur vos petits business parallèles et démarrons ce quiz sur les extravagances de votre modèle, Pablo Escobar, qui était colombien et pas mexicain, mais bon, comme dirait Cyril, ils se ressemblent tous avec leur moustache.
Arrêtez.
Quentin, Manon, dans le budget mensuel de Pablo Escobar à la grande époque, la somme de $2,500 était consacrée à une dépense bien particulière. D'après vous, Pablo consacrait $2,500 par mois pour les soins vétérinaires des hippopotames de son zoo personnel, les élastiques pour attacher tous ses billets ou les frais de pressing de son célèbre Marcel Blanc qui devait être toujours plus blanc que blanc. Les soins vétérinaires des hippopotames.
Non, moi aussi je l'ai dit.
Parce que vous avez vu les images, hein, le zoo avec les fameux hippopotames, on les voit et on voit Pablo.
Ou Clotilde ne nous
laisse la bonne réponse, c'était la réponse B. Vous vous êtes planté lamentablement.
Il y a quand même des hippopotames.
Oui, mais il y a des hippopotames.
Ils ont pas pu, ils ont dû les laisser là-bas.
Mais les hippos, c'était au moins 3-4 000 par mois, les frais vétérinaires. 2500, c'était les élastiques. De l'aveu du frère de Pablo, lui-même, le cartel de Medellín dépensait environ $2,500 par mois en élastiques nécessaires pour maintenir ensemble les piles de billets qui posaient un véritable problème de logistique. Chacun ses soucis, à nous à France Inter on n'a jamais eu besoin d'élastique, mais c'est vrai qu'avoir trop d'argent liquide, trop au sens de plus encore que Quentin, peut devenir problématique car le cash ça prend beaucoup de place. Mais ça peut aussi dépanner quand on a un pépin. Ainsi, un jour, Pablo Escobar a tout bonnement sacrifié $2,000,000 parce qu'il n'avait pas de papier sous la main. D'après vous, il s'est servi de ses billets pour quoi ? Pour s'essuyer les fesses, il n'y avait plus de PQ aux toilettes, mais il y en avait des liasses cachées dans le mur. Pour allumer la cheminée parce que sa fille avait froid et que contrairement à Pierre Courade, il n'était pas abonné au JDD, donc il n'avait rien pour démarrer le feu. Ou il s'est servi des billets pour éponger le sol après une rupture de canalisation parce qu'il n'avait pas de serpillière sous la main.
B.
Pour réchauffer sa fille.
Je vais dire A.
C'est un peu, ça a de l'allure de...
Et je pense que c'est B aussi, mais je vais dire A du coup. Bon, je pense qu'il s'est pas essuyé avec des billets, mais bon.
Alors, je vais vous dire un truc, Manon. Connaissant le personnage, à mon avis, il s'est déjà torché avec des billets. C'est vrai. Possible, mais la bonne réponse, celle qui est sourcée en tout cas, c'est la réponse B. Effectivement, ça en dit long sur l'âpreté du quotidien chez les Escobar, puisqu'en effet, alors que toute sa famille, cette famille de philanthropes odieusement traquée par la police colombienne, rappelons-le, était un jour réfugiée dans une de leurs cachettes de la montagne de Medellín, la fille de Pablo est tombée en hypothermie à court de bûche. Ce père Courage a pris alors ce qu'il avait sous la main, à savoir $2,000,000 en petites coupures pour la réchauffer. Je vous sens ému, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car l'ingéniosité du maestro de la schnouf est sans limite. Parmi les techniques suivantes, lesquelles ont été inventées par Pablo Escobar. Faire tremper des jeans dans de la cocaïne liquide pour les exporter ensuite en toute légalité. Malin. Cacher la drogue dans les pneus des avions de ligne. Ou utiliser une catapulte géante pour propulser de la drogue par-dessus la frontière.
Les trois.
Pour vous, c'est la catapulte, Quentin.
Ouais, un peu moyenâgeux, j'aime bien ça.
Là, c'est pas mal, ouais, mais...
Faudrait une grosse catapulte, quand même.
Ouais, mais ça doit exister.
Et surtout, en termes de précision, est-ce que vraiment ça serait fiable? Essayez de réfléchir.
Ah, je sais pas.
C'était en tout cas la mauvaise réponse. Bonne réponse de... Vous avez dit quoi maintenant?
J'ai dit les trois.
Ouais, c'était... Personne n'a bonne réponse. C'était simplement A et B. On retient trop souvent l'image du narcotrafiquant Escobar, mais il ne faut pas oublier l'inventeur Escobar. Comme dirait Guillemette, notre invité d'hier, il faut distinguer l'homme de l'artiste. Or, l'artiste Escobar n'a pas manqué d'ingéniosité, même si le coup de la catapulte géante, c'était pas lui, c'était l'ancêtre de Cyril, Gonzague de la carrière, dit Gonzague le Bougon, au siège de Poitiers, un échec cuisant jusqu'à la suite d'une erreur de manipulation. Il s'était catapulté lui-même derrière les lignes ennemies, devenant par la suite, dans les livres d'histoire, Gonzague le Teubé. Et nous avons une archive audio de l'époque, ce qui est vraiment fou. Mais trêve de digressions historiques, même si elles sont toujours passionnantes, bénéfiques à votre culture générale et gratuites. Continuons à égrener le chapelet du plaisir informatif.
On retient rien. Mais
quelques chiffres bien sentis sur le boss de fin de la chenouve. D'après vous, Pablo Escobar pesait tellement lourd dans le game de la drogue que 80% de la cocaïne sniffée aux États-Unis dans les années 80 provenait de ses plantations.
C'est quoi, vrai ou faux?
Oui. Il avait... Non, c'est juste, je vous demande laquelle des trois. Il avait tellement de cash à gérer qu'environ 2 milliards de dollars ont été grignotés par les rats dans ses entrepôts, où il a figuré dans le classement Forbes des plus grandes fortunes.
Les trois.
B et C.
Je vois, Manon n'a pas hésité, elle n'a pas tremblé.
Mais non,
elle a donné la réponse, et vous dites à chaque fois A, B, C, comme ça vous ne fatiguez pas, mais pour une fois vous avez raison, c'est la bonne réponse, oui.
Elle vient de dire qu'on ne retient rien à vos
cuisses. En 89, Escobar était à la 7e place du classement Forbes, occupé aujourd'hui par Larry Page, le fondateur de Google, les temps changent. Et pour terminer, on a parlé hippopotame, élastique et feu de cheminée, mais il nous manque un chapitre pittoresque quand même, les morts. D'après vous, Pablo Escobar est responsable de combien de morts? 4000 morts, 4000 personnes, 200 juges ou 1000 officiers de police, journalistes et fonctionnaires?
Les trois.
Vous êtes d'une vivacité et surtout votre martingale fonctionne. C'est chaque fois abaissé aujourd'hui. Victoire de Manon Mariani sur Pablo Escobar. Est-ce étonnant?
Non.
Il n'est pas mexicain, mais bon.
Elle dit la même réponse à chaque fois. On n'a qu'à la jouer au dé la prochaine fois.
Mais c'est une.
Vous avez le seum, c'est fou.
Pas du tout.
Ça vous va pas autant.
Revenons à nos moutons. Un air de mariachi flottera-t-il bientôt sur la colline du crack à Paris? Zoom cet après-midi sur le mot préféré de Bruno Retailleau, la mexicanisation de la société française, ou comment les organisations criminelles réussissent à imposer leurs lois au sein d'un pays. On est toujours avec l'économiste Clotilde Champérache. Clotilde, pour parler concrètement, ça représente combien en chiffre d'affaires aujourd'hui le trafic de drogue en France?
On ne sait rien.
Alors c'est flou. On n'a pas une vague.
Il y a des estimations. On parle de 9 milliards d'euros qui seraient liés au narcotrafic en France. Ceci étant, c'est des estimations à partir d'extrapolations parce que, de fait, c'est un business caché. Alors, comme information, on a les saisies douanières.
Mais c'est une partie infime.
Voilà, et puis c'est le reflet de l'activité des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel pourcentage on arrive à saisir. On n'en a aucune idée.
Qui s'enrichit dans cette histoire?
Les intermédiaires de gros, c'est vraiment ceux qui vont réaliser le maximum de marge. Et en plus, ils réalisent de la marge avec le moindre risque.
Ils ne sont pas sur le terrain.
Voilà, on ne les voit pas, ce n'est pas les dealers de rue, ce n'est pas eux qui risquent l'interpellation. Mm-hmm. Alors quand ils tombent, c'est quand il y a des grosses opérations, souvent internationales, mais c'est quand même assez rare. Et ces gens-là, même matériellement, ils ne touchent pas la cocaïne, donc c'est même difficile de les faire tomber.
Ça veut dire que c'est des gens qui, par exemple, ne se cachent pas, ils mènent une vie comme vous et moi.
Pas forcément. Quand je pense à la mafia calabraise, c'est pas des gens qui sont dans l'ostentation des gangsters.
Ah oui, ils vont pas parader sur un yacht l'été à Portofino.
Non. Ils peuvent, certains vont bien vivre, mais beaucoup ont un train de vie assez modeste.
Donc ce n'est pas l'oncle de Quentin.
Non, ils ont un emploi à côté, par exemple, une couverture.
Oui, tout à fait. Pas forcément de couverture, mais là aussi, de présence dans la sphère légale. Mm-hmm. Ils ont réinvesti dans le BTP, etc. Donc il y a toute cette façade qui est créée. Et puis, ils font vivre leur organisation criminelle aussi.
Mais comment on fait pour couper le robinet, du coup?
Comme pour éteindre l'alarme.
Voilà. Ce qu'il faut, c'est investir dans des opérations au long cours. Et ça, pour les politiques, c'est complexe. Le temps politique, le temps médiatique, c'est pas le temps de l'enquête judiciaire qui permet de remonter. Il y a quelques très beaux coups qui sont réalisés, notamment, je pense, à des saisies hauturières, des douanes, c'est-à-dire des saisies en haute mer, avant même que ça entre sur le territoire. Mais ça demande de la coopération internationale. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on saisit des grosses quantités dans ces cas-là.
voilà. Claudie, il y a quand même les fabuleuses opérations Triple XL, opération PlaceNet, machin oui. truc, qui fonctionnent, non ? Ça marche.
Qui déplace les points de deal ou qui les entrave momentanément. Mais ce qu'il y a, c'est que pour que ça soit durable de bloquer un point de deal, il faut occuper le territoire au quotidien, 24 heures sur 24. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'offre en ligne des produits stupéfiants, qui fait que le point de deal demeure, mais ce n'est pas le mode principal d'approvisionnement.
Pour finir, vous dites que la mexicanisation est un régime de terreur qu'on ne connaît pas encore en France. Il y a quand même le mot « encore » dans cette phrase. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, ça pourrait arriver en France ?
Ce qui peut arriver en France, ce n'est pas forcément le modèle, justement, de la violence exacerbée. C'est un modèle de corruption généralisée. On a quand même des hommes politiques qui ont eu des affaires avec les stupéfiants. On n'a pas d'exemplarité. On a la sensation quand même qu'il y a des flottements dans le rapport à la lutte contre les stupéfiants.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. La sirena idéale. Voilà comment les Mexicains la surnomment depuis qu'ils l'ont aperçue comme lévitant sur les flots au large de Puerto Escondido. Mais retour à la réalité, Manon. Ah là ici, là. Vous n'êtes pas la sirène irréelle, vous êtes la Marianoche. Quelle est...
C'est moins sexy.
Quelle est...
Le jour et la nuit.
Quelle est donc votre pièce jointe du jour ?
Eh bien, un journal. Il s'appelle Rio Dossé. C'est un hebdomadaire indépendant. Il a été créé en 2003 dans la ville de Culiacán, au Mexique, dans l'état de Sinaloa. Un emplacement loin d'être anodin, car c'est là-bas que se trouve le plus gros cartel mexicain, l'un des plus influents et des plus dangereux aussi, le cartel de Sinaloa, longtemps dirigé par celui qu'on appelle El Chapo, désormais emprisonné aux États-Unis. Et c'est le sujet principal du journal Rio Dossé. Il s'est installé là-bas pour enquêter sur la corruption, les cartels et la violence. Il fait partie des rares médias au Mexique qui osent dénoncer les actions de certains narcotrafiquants, interroger les familles de victimes ou même d'anciens membres du cartel. Son fondateur est le reporter Javier Valdez Caldenas. Il a passé sa vie à enquêter sur le crime organisé, la corruption au Mexique, et en parler dans les médias, dans les livres, dans des interviews, et ça malgré les nombreuses pressions qu'il subit.
Quel genre de pression ?
Et en 2009, par exemple, il sort une série d'articles intitulée « Hitman, les aveux d'un tueur ». Quelques jours après, une grenade est lancée dans sa rédaction. Le journal est aussi régulièrement victime de cyberattaques, mais il continue d'exister et ne cède pas face aux intimidations et aux menaces. Deux ans plus tard, Rio Dossé reçoit même le prestigieux prix Maria Murska de l'Université de Columbia, qui récompense les journalistes dont l'ensemble du travail contribue à la compréhension intra-américaine. En 2016, Javier Valdez Cárdenas publie un livre intitulé « Narcoperiodismo » où il recense les témoignages de plusieurs journalistes mexicains qui couvrent le crime organisé dans leur pays. Un livre pour rendre hommage à leur courage. Malheureusement, avec les cartels, le courage ne suffit pas, car le 15 mai 2017, Javier Valdez est assassiné en plein jour devant la rédaction de son journal par des hommes du cartel de Sinaloa. Son meurtre choque tout le Mexique et bien au-delà. Le Mexique est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Selon Reporters sans frontières, depuis 2000, plus de 150 journalistes y ont été tués et 28 sont toujours portés disparus.
Heureusement que vous n'êtes pas journaliste.
Je n'ai pas sorti ma carte de presse.
Oui, vous avez bien fait, vous êtes caché. Vous étiez là-bas.
Incognito.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Des erreurs. Il en aura commises dans sa vie. Le Cap-Vert, en 1. Les dates du sommet sur l'IA à Paris, en 2. Mais ce n'est que ce matin. Ce n'est que ce matin, en blêmissant soudain devant son écran d'ordinateur, qu'il a pris conscience de sa troisième erreur. Tels furent alors ses mots, je cite, « Bordel, je me faisais ponctionner par Lagardère depuis des années, 6 euros par mois, j'ai vérifié, en fait j'étais abonné au JDD !» Sacré Pierre Courade, certainement l'abbé Chibrard qui vous aura abonné pour vous remettre dans le droit chemin. Pierre, chaque après-midi, vous nous résumez... Oui, c'est vrai. Ça, je suis témoin, vous vous êtes activé pour vous désabonner illico. Chaque après-midi, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
La mexicanisation aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, deux définitions de ce mot. L'officieuse, c'est Manon évidemment qui mexicanise notre bureau depuis son retour de vacances avec ses Roland de Mezcal mélangés à des restes de tacos aux abats. L'officiel, c'est celle qui est venue nous présenter cet après-midi l'économiste Clotilde Champerrache. Ce qu'on appelle sérieusement la mexicanisation, c'est lorsqu'une société est gangrénée par des réseaux criminels, si bien que l'État, même s'il garde son apparence avec ses institutions, n'a plus vraiment de pouvoir. Il faut quand même préciser disais que mexicanisation est très connotée, et en premier lieu pour le Mexique, hein, qui lutte depuis des décennies contre le narcotrafic. Mais ça n'empêche pas des personnalités politiques françaises de faire le parallèle avec la situation chez nous, parallèle hasardeux pour notre invité, qui rappelle que le nombre de morts liés au trafic de drogue au Mexique est sans commune mesure avec le nombre de victimes en France. La société française n'est pas non plus aux mains des cartels qui pratiquent le racket auprès de la population et corrompent les magistrats et les politiques. Par ailleurs, un pays mexicanisé vit d'argent sale et la société est totalement gangrénée par la violence. Et même si de nombreux territoires français sont tristement frappés par le trafic de drogue, notre invité préfère le terme de dissidence criminelle à mexicanisation. Bien nommer les choses permet aussi d'apporter les solutions les plus efficaces.
Merci Pierre, et vous avez conservé en revanche votre abonnement à Valeurs Actuelles.
Oui, bien sûr, ça.
Il est mécène.
Gold. Abonnement Gold.
Et figurez-vous que c'est GC qui est de retour aujourd'hui parmi nous, tout bronzé. Alors, bien les vacances. C'est le lancement qu'il m'a proposé. Vraiment, il s'est pas foutu de la gueule sur le lancement. Bonjour, GC.
Mais bonjour à tous. Merci, Mathieu, de remarquer mon teint si allé.
Oui, c'est vrai.
Ah, quand je regarde Pierre et Manon, hein, je me dis, c'était bien les vacances au fond d'un puits. Au fond d'un puits au Mexique. Mathieu, je suis content que tu me regardes, hein, Mathieu.
Oui, oui.
Étant donné que tu m'as pas écrit pendant 2 mois. Mais je suis quoi pour toi, en fait? Hein, je suis une petite chroniqueuse banale, c'est ça, hein, à qui on donne l'heure uniquement sur les jours ouvrés, c'est ça. Je suis Manon Mariani, moi, peut-être, hein. Bon, même Cyril Lacarini, il a réagi à 2 de mes stories pendant les vacances. Non, menteur. Bon, je pense qu'il a pas fait exprès, hein. Tu dois avoir ton téléphone dans ta poche sur une attraction du Puy du Fou. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. C'est reparti pour une année complètement délire. Quentin, tu continues avec tes micro-trottoirs? Ouais. Pas que délire, alors.
J'hésitais à reprendre Canicule Sentimental.
Ça
m'a fouillé. Vu les retours.
Oui, tu feras pas les millions de podcasts. En tout cas, super thème pour la rentrée. Super thème, le Mexique, en tout cas, j'adore. Ça prolonge un peu les vacances. Hein. Chupar una polla mexicana. Vale. Je laisserai les auditeurs traduire. Hein. Pas besoin d'avoir fait espagnol LV2. Il suffit d'avoir un peu traîné sur les Ramblas après 2 chupitos. Hein. Non, mais super, le Mexique. Hein. Puis comme ça, la Courade pourra rajouter un drapeau dans sa bio Insta.
Hein. C'est déjà fait. Hein.
Hashtag tour du monde. Après, je dis Mexique, pardon. Hein, la mexicanisation, c'est ça le vrai thème. Excusez-moi de rajouter un peu de fun à cette reprise. Se mexicaniser, qui à mon plus grand étonnement, ne veut pas dire rapetisser en agitant des maracas, mais c'est le fait pour un état de glisser dans la violence et le trafic de drogue. Pas très sympa pour le Mexique. Hein, on stigmatise tout un peuple, hein, qui nous a quand même apporté les Tecpaf, Salma Hayek, hein, et a sauvé les soirées de nombreux Français grâce à Old El Paso. Je propose donc, quand la France sombre dans la tristesse et la drogue, qu'on dise plutôt qu'elle se palmadise, par exemple. Voilà. Hein. Ou tout simplement qu'on vit à Mulhouse. Rien contre nos amis alsaciens, rien contre, je suis moi-même fan de bretzel, mais la ville est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Quelle surprise. Des gens qui n'ont plus le soleil à 14h et qui décident de se lancer dans la kétamine. Alors, petit conseil hélio-tourisme, hein, aux trafiquants, quitte à mourir d'un règlement de compte, autant que ce soit à Marseille. Hein. Tu te prends une petite rafale de calage dans le plexus, mais au moins, pendant le week-end, tu vois les calanques. Marseille, élue ville la plus craignose de France, selon aucun classement. C'est juste moi qui n'aime pas cette ville. Voilà. Et en même temps, peut-on accorder du crédit à quelqu'un qui utilise le mot craignose? Voilà. Hein. Non, mais la Marseille, non. Pardon, Manon, Marseille, c'est pas possible. Hein. C'est rempli de parisiennes en burn-out qu'on fait une rupture co dans leur agence de pub. Non mais pardon, faut arrêter les ruptures conventionnelles, il n'y a plus assez de logements dans la ville pour les profs de yoga. Je les entends d'ici, en plus, qui ont passé un mois cet été, hein, qui ont bu de moresque sur le cours Julien et qui se prennent pour Pagnol. Voilà. Non mais c'est quand même vachement sympa, le petit port des Goudes. Mais tais-toi, Manon Mariani, c'est pas possible. C'est sûr que tu fais pas monter l'immobilier dans les quartiers nord. Hein. Bah non, alors que c'est très sympa. Bon, j'ai surtout vu les caves, mais voilà. Et je suis trop content parce que quand j'y vais, ils disent que je ferai une super mule. Trop content. Bref. Mais bon. Flemme de mexicaniser. En plus, ça me va pas du tout les ponchos. J'ai vu que Bruno Retailleau voulait faire de la drogue son cheval de bataille. Il appelle maintenant les narcotrafiquants des narco-racailles. Trop mignon, je trouve. On dirait un Pokémon, genre go narco racaille. Bon, c'était pas nécessaire, c'est pas. J'aurais dû l'esprit. Darmanin veut aussi supprimer le cash pour supprimer les achats de drogue. Hâte que les consommateurs fassent l'arrondi solidaire pour les pandas roux quand ils achètent leur cam. C'est quand même marrant que les politiques fassent les gros durs avec le trafic de stupéfiants quand on sait que le président de l'INA vient d'acheter pour 600 euros de coke et que les députés tapent tous de l'acé dans les toilettes de l'Assemblée. Ce qui me fait conclure en demandant à nos chers ministres, alors finalement, c'est qui les narco racailles?
Oh! Ouais. Ça attaque politiquement cette chronique. Et pour signaler que vous dites vraiment n'importe quoi, j'ai repris notre discussion Instagram cet été. 11 messages échangés tous les deux. Hein. Donc voilà.
Ah, mais effectivement, c'est plus qu'avec nous.
Mais c'est plus de rien que je dis ça, Mathieu.
D'accord.
Moi, je suis à zéro. Bon, bah, alors,
moi aussi. Zéro.
Oh, bon, ça suffit, les amis.
Zéro.
Les amis. Stop. Zéro. On est en retard. Merci, GC. Et merci, Clotilde Champérage, de nous avoir permis de mieux saisir ce concept de mexicanisation. Je rappelle votre livre Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale. Et si on doit retenir une chose de l'émission, c'est la différence entre une mafia et un cartel. C'est pas du tout la même chose. Vous nous l'avez expliqué. Réécoutez-nous en podcast pour tout comprendre. Zoom, zoom, zen.